Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel que vous ne pouvez écouter que si nos serveurs ont tenu après boulet.
C'est vrai qu'on a un stress test qui a dû être fait, là, le 6 mai.
Ouais, voilà, c'est ça. On ne sait pas, on verra. Autant, il n'aura même pas parlé de cette émission sur son blog. Dans ce cas-là, on peut s'en sortir. On en est à souhaiter que Boulet ne parle pas de nous. Alors que, bon, on s'en fout. Bienvenue dans cette superbe émission. Mais c'est mon ami Thio, mais que fais-tu là? Salut Thio, comment
Hello.
Ça va? Coucou. Une émission encore super géniale. Nous allons vous parler de Walking Dead 14. Eh, on a presque rattrapé de notre retard. Du guide du grumeau, parce que c'est un peu d'actualité pour moi. De Scarlett, de Monstre en délire, de l'intégrale numéro 6 de Valérie Lorline, qui devrait être l'avant-dernier. De Minotaur, ce sera ma splash page. Et Matt viendra nous parler du Seinen et de Hideout. Et en HS, on vous parlera d'une petite série fort sympathique, mais je vous laisse la surprise pour la fin de l'émission, ou bien alors si vous avez lu le programme sur le site.
C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent lire le programme, eux, avant de... Pas comme moi, quoi.
C'est ça.
Ils savent déjà ce qu'ils vont écouter avant que ça... C'est...
Tu es médisant, parce que la plupart du temps, le programme est en ligne avant que tu viennes, voire plusieurs semaines avant.
Ouais, mais c'est pas parce qu'il est en ligne que je l'ai vu.
Ouais, c'est ça.
Il était temps ! Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne !
Donc, commençons tout de suite par The Walking Dead numéro 14.
La série qu'elle est bien à offrir.
La série qui est bien à offrir, car c'est encore un tome que je n'ai pas acheté, celui-là, je crois. Là, il y a le 16 qui vient de sortir, je crois, ou le 15. On
15.
A commencé à rattraper notre retard. Le 16
ouais.
Est pour bientôt, un truc dans le genre. On a rattrapé notre retard. On va aller très vite sur The Walking Dead numéro 14, parce que, très simplement, dans cette bande dessinée d'horreur survivaliste humanitaire... Humaniste.
Humaniste, plus,
ouais, plus
qu'humanitaire.
Merci.
Ouais.
Bah on en est au tome 14, il s'est passé beaucoup de choses. En gros, nos personnages ont trouvé une communauté, forcément c'est parti...
Dans la ville d'Alexandria.
Forcément,
bah,
c'est parti
en Ukraine,
hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui déconne à un moment ou à un autre. Et il se passe plein de choses pour qu'ils essayent de s'en sortir malgré que tout part en couille et qu'ils essayent de se réorganiser comme d'hab. Il y a un peu du neuf quand même, mais disons que...
Il y a du neuf, mais moi je trouve que ça commence à devenir un peu, pour utiliser une sorte de mot un peu savant, je trouve que c'est un peu une utopie répétitive, tu vois. C'est que tu crois qu'on va arriver dans un monde utopique où ça y est, enfin tout va aller bien, et hop, patafrac, on retombe encore. Ouais, bon, ben, c'est bien, mais je trouve que l'élastique commence à être un peu trop...
Ça peut pas aller bien dans cette série, de toute façon.
Ouais,
non, moi, il y a un seul truc qui m'a choqué.
Moi,
il y a un seul truc qui m'a choqué. Bon, c'est en dehors du drame de l'épisode. Parce que l'épisode d'avant, comme d'hab, c'est un épisode où c'était tranquille. En général, c'est ça. Hein. Un épisode tranquille et un épisode où tout part en vrille. Là, il y a un drame énorme. Ne feuilletez surtout pas ce tome si vous voulez savoir ce qui va se passer. Si vous voulez avoir un peu de surprise. Mais disons que la conclusion, au final, est un peu facile, quoi. Le « Oh là là, mon Dieu, on ne sortira jamais !»« Ah bah finalement, non, ça va. » C'est un peu ça.
D'où la structure répétitive. Parce que je te rappelle que c'est un peu la même chose quand ils ont quitté la prison.
La prison, c'était plus définitif, quand même, hein, la fin de la prison.
Non mais oui, enfin, c'est pareil, ils s'en sortent, tu sais pas trop comment, quoi. Parce que d'un côté, ils ont une armée de zombies, de l'autre, ils ont un char d'assaut, et d'un coup, chut, allez hop, on part en courant,
oui,
les gars,
enfin,
et on a réussi à s'enfuir.
Ils s'en sortent parce qu'ils sont plus que deux, donc...
non, ils sont pas plus que deux.
Ils sont quatre à la sortie de la prison.
Non, enfin, voilà, non, mais c'est voilà.
T'as perdu la moitié des personnages, et ils sont tous éparpillés dans tous les sens. Là...
Moi, c'est la structure répétitive qui commence à me lasser.
Ouais,
qui
commence à te lasser. On verra comment il enchaîne derrière. Bon,
c'est toujours aussi énorme. C'est clair que quand je l'ai lu, j'arrive, enfin, tu arrives au moment où... Là, tu fais, ouais... C'est énorme, quoi. C'est énorme. Oui, mais la structure commence à se répéter et ça devient un peu lassant. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous mettent un gros coup de pied au cul et qu'ils nous sortent des trucs un peu neufs, quoi.
Monter un gouvernement, une connerie comme ça, autour des... Ouais, je sais pas comment est-ce qu'ils pourraient faire. Faut voir. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le jeu... Mais après, à chaque fois qu'ils construisent quelque chose, ils vont plus loin. Tu vois, c'est, on construit quelque chose, ça se casse la gueule, on reconstruit quelque chose, on va un peu plus loin dans la construction et dans le développement, ça se recasse la gueule. Mais c'est vrai que t'as raison, il y a un côté répétitif. D'un autre côté, on est dans de la série, dans du serial, moi ça me perturbe pas plus que ça. Le dessin, bon, comme d'hab, voilà, c'est ce que j'ai mis comme mot. Ah oui, pour le scénario, j'ai mis à suivre enculé, c'est mon mot.
Bah, moi c'était mon utopie répétitive. mais non, pour le, moi pour le dessin, tu vois, il y a un truc qui m'a. Je sais pas, voilà, c'est peut-être l'effet que ça m'a donné, mais je l'ai lu. Et pour la première fois, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, tout ce qui, enfin, toute une partie des scènes se passe la nuit, en fait. C'est pour ça que c'est en noir et blanc. Il ne me demande même pas pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est le noir et blanc qui. Non, mais cette fois-ci, le noir et blanc m'a choqué, en fait, dans le.
Ah ouais.
Ah, pourtant, ça fait quand même déjà 14 tomes que je
ouais, que tu continues noir et blanc.
Mais sur ce tome-là, ça m'a choqué.
Avec toujours les belles trames de Cliff Rasburn.
Mais
on n'a pas dit que c'est toujours Robert Kirkman au scénario et Charlie Adlar au dessin.
Moi, ça m'a un peu choqué, voilà, le noir et blanc.
Ah ouais.
Ce serait bien que voilà, pour le 15, il nous fasse. Non, c'est pas possible. Enfin, peut-être qu'un jour, il nous fasse.
On a lu un bout d'histoire en couleur, on en a lu un. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
qui était assez bizarre.
D'ailleurs, tu te rappelles qu'il fallait que tu envoies l'info à quelqu'un.
Oui, et je profite maintenant d'une autre info, c'est que on trouve sur le site de Comics Place, un site d'info sympathique, même si je trouve qu'il aime un peu trop Jeff Campbell et qu'il en parle beaucoup. D'un autre côté, c'est son site, il fait ce qu'il veut. Où en gros, il parle que dans Playboy est paru une histoire sur les origines de Michonne. Donc, on la voit pas à poil dedans ni rien, c'est juste que c'est dans Playboy. Vous savez, Playboy, entre les filles à poil, il y a des articles intéressants et des grands écrivains souvent. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu Playboy, mais il paraît que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, il y avait donc quelques pages de The Walking Dead qui racontaient les origines, enfin les débuts de Michonne, comment elle a géré l'arrivée des zombies, etc. Très sympa, très intéressant. Sur Comics Place, il les a mis en ligne. Je ne sais pas s'il va pouvoir.
Il les a mis en ligne, en fait.
Ouais, je ne sais pas s'il va pouvoir les laisser longtemps, mais bon, ça doit pouvoir se trouver. En tout cas, c'est sympa. C'est un petit bonus, c'est cool. Ça permet de voir comment ça se fait qu'elle se retrouve avec ces deux zombies sans mâchoire et sans bras. Quand elle arrive dans la série.
Pas de bras, pas de chocolat.
Le petit grumeau illustré.
De Nathalie Jomard, chez Michel Lafond.
Ah si, c'est petit grumeau illustré, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est moi qui ai écrit une merde sur le
programme. Oui, parce qu'en fait, voilà, on a fait un programme et il a écrit le guide du grumeau, tu vois. Comme si tu avais un guide pour faire des grumeaux dans la pâte à crêpes, quoi. Vraiment poucrave, le mec il fait ça, quoi. Donc, le petit grumeau illustré.
Qui est en gros, bah, c'est encore un blog hein, qui nous ressort en album. C'était le blog de Nathalie Jomard qui nous raconte
l'arrivée du premier enfant.
Et comme c'était trop rigolo et comme c'est trop bien passé. Alors bon, moi je suis un peu dedans, je l'ai un peu vécu, je suis dans l'actualité. Première constatation, bon, c'est un bel album. C'est une très belle édition pour du blog en général. C'est pas une aussi belle édition. Il est pas si cher que ça. 17 euros, voilà, c'est vraiment...
Il y a plein de pages et c'est du beau bouquin.
Voilà. Et voilà. Première constatation sur les gags. Donc, c'est plein de petits gags, de petites blagues, etc. Bizarrement, certains gags qui ne m'avaient fait que sourire, je les ai refaitées là il y a un instant, d'un coup m'ont fait rire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir toucher votre moi intérieur de papa ou de maman, dans le cas. Parce que il y a du vécu dedans.
Mais c'est éducatif.
Oui. Oui, alors c'est voilà. Ça. Si vous n'avez jamais été parent, je pense que vous allez apprendre des choses auxquelles voilà, il faut vous attendre. Ça veut vous dire, hein, mais c'est n'importe quoi. Pas toujours. Parlons, avant de revenir sur le scénario, du dessin de Nathalie Jomard. Ton mot.
Drôle.
Et j'ai mis vrai point d'interrogation. Non, pardon, ça c'est le scénario. Ah, je suis une gueule. Gueule. Elle a une façon de dessiner des gueules. Il y a des gueules à ces personnages. Ces sourires crispés, ces têtes qui hurlent. Elle nous fait vraiment... Ces personnages ont des gueules. Elle joue beaucoup sur les temps morts, un peu à la Simpson, tu sais, quand le personnage... T'as une pause de quelques secondes où il se passe rien, et puis d'un coup, paf, t'as le gag qui enchaîne. Moi, je trouve le dessin très, très expressif, très bien foutu, et qui colle bien.
Très, très sympathique. Je trouve que l'enfilage de Tatane sur le petit grumeau est très représentatif avec les doigts qui sont crispés dans la moquette. C'est... Voilà.
Oui, toute la crispation, toutes les têtes exagérées sont super bien rendues. Moi, ça m'a bien plu. Alors après, d'un point de vue bande dessinée, on est plus dans du strip étalé sur plusieurs pages que sur de la vraie bande dessinée avec narration, travail sur l'espace, etc. Ça vient d'un bloc, quoi. À la base, c'était lu de bas en haut, une case par ligne. le scénario, donc j'ai mis vrai avec un point d'interrogation, car plus je le feuillette, plus ça ressemble à la vraie vie, enfin la mienne.
Moi, tu vois qu'il n'est pas encore tout vécu dedans, parce que j'ai déjà fait un petit peu, je me suis un peu entraîné là, tu vois, donc je dis éducatif, parce que tu apprends beaucoup de choses quand même. Certaines dont tu te doutais, certaines dont tu ne te doutais pas.
Oui.
Mais voilà, non, c'est vrai que c'est, moi j'ai passé un bon petit moment à le lire. Et ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Je pense qu'il n'y a pas de. Même si c'est une héroïne.
Je pense que ça plaît. Enfin, je pense que les hommes qui ne sont pas en attente ou en projet d'enfant vont trouver ça gonflant.
Enfin, non, mais qui passent leur chemin.
Oui, voilà. Hein, non.
Bah, grosso modo, c'est comme si tu achètes un livre de cuisine et que tu sais que de toute façon tu ne rentreras jamais dedans. Donc.
C'est petit, un livre de cuisine, c'est dur de rentrer dedans.
Non, mais je veux dire, tu rentreras jamais dans la cuisine.
Ah, d'accord.
Pfff, qui boulait, lui. Et c'est exactement le truc, quoi. Si t'as pas envie d'être papa, lis pas ça, quoi. Oui.
Quoi qu'il en soit, Nathalie Jomard continue à raconter ses mésaventures sur son blog. Elle est apparemment l'heureuse maman d'un deuxième grumeau.
Pourtant, dans celui-là, elle a dit que c'était pas prévu tout de suite. Hein.
Ça date de quand
Il y a un moment où il y a une petite image où elle est allongée par terre avec le grumeau qui lui saute sur le dos et elle dit non, le deuxième c'est pas tout de suite.
Ouais, c'était il y a 3 ans.
Ah ben elle a pas tenu longtemps.
Elle a pas tenu longtemps. Donc un petit livre sympathique pour tous les futurs parents ou déjà parents qui se rappelleront bon souvenir, un cadeau à faire si par exemple vous êtes invité à un baptême ou une connerie comme ça. Hein, c'est top, vous offrez ça et vous passez genre, hey, moi je suis hyper aware, je maîtrise, même si vous n'en avez rien à faire.
Bon, en fait, un truc, ne l'offrez ni à Thio, ni à Pied, on les a déjà tous les deux.
C'est vrai.
Je crois que d'ailleurs, c'est le seul BD où on a en double, quoi.
Ouais, c'est rare. Hein. C'est parce qu'on les a offerts.
C'est ça.
De Cup de Croc, faut que j'achète le dernier tome. Ensuite.
Dans les bacs. Mince, encore une fois, c'est un jingle que j'ai raté.
Voilà, tu as déjà entendu une fois les jingles?
Il faudrait que j'écoute les émissions pour ça.
D'accord, c'est ce qui me semblait.
Si, non, j'en ai entendu un ou deux parce que j'écoute des fois les débuts, mais je m'arrête parce que ça me gonfle de m'écouter.
Ouais. Dans les bacs.
Scarlett.
Mais qu'est-ce que c'est que ça raconte-t-il, Scarlett?
C'est la. Le nouveau comics, c'est des meilleurs auteurs de tout l'univers, de toute la galaxie, des gens exceptionnels.
Brian Michael Bendis et Alex Maleev. Que nous connaissons déjà pour, dans le duo, bon, Bendis, on ne va pas parler de ceux pour qui on le connaît, il ferait trop de choses, mais le duo Bendis-Maleev, ça a été parmi les meilleurs moments de Daredevil.
Le meilleur.
Le meilleur, ouais. Ça a été Spider-Woman, correct.
La plus grosse merde de Loge 2.
Ouais, voilà, oui, c'est ça, mais c'était correct quand même.
C'était correct, oui.
C'était pas exceptionnel.
Disproportionné, mais correct.
Voilà, c'était pas exceptionnel, mais c'était, voilà, on en a parlé aussi. Et là, ils nous reviennent avec une nouvelle série. Et une nouvelle série à eux.
À eux.
Avec des personnages à eux. Et des droits d'auteur
à eux aussi, mais on va y venir.
Je te laisse, c'est à ton tour de parler un peu.
Donc, qui est Scarlett? Scarlett, c'est une fille. Voilà, je pense que c'est un bon départ. Qui est un petit peu indignée vis-à-vis d'une société qu'elle juge totalement à chier.
Parce qu'il lui est arrivé quelque chose de pas top.
Et que l'injustice, ça l'a beaucoup, 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 beaucoup énervée. Donc du coup, elle va devenir une justicière.
Et elle va, une justicière sociale.
Voilà. Et elle va essayer d'entamer une sorte de révolution en disant que il faut que la justice désormais arrête les compromis, quoi. Une justice du peuple, qu'on arrête de faire semblant, de dire que oui, on est les forces de l'ordre, et alors qu'on fait n'importe quoi.
Et donc, dans ce premier tome, elle essaie de s'organiser, de se remonter, de dénoncer la police qui est très corrompue dans la ville en question. Je sais plus où ça se passe.
Portland.
Portland, c'est la ville de Bendis en plus, il me semble. Donc, elle est en train de vouloir lutter contre cette corruption de la police. Pas toute la police, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que tout le monde n'est pas corrompu, mais en fait, il y a suffisamment de gens corrompus pour que ça ne soit pas. Pour que ça foute la merde.
Voilà, et donc, du coup, dans son mouvement, parce qu'en plus, elle gère bien les médias quand même, elle a réussi à générer un mouvement de fond, on va dire, du peuple.
Un peu malgré elle au départ.
Un peu malgré elle, mais ensuite, elle s'en sert et ça commence à faire un petit peu, une masse qui se met en mouvement. Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'au niveau du scénario, ça faisait un peu quand même une grosse ressuscité de V pour Vendetta. Et sur certains aspects. Hein, et j'ai trouvé ça un peu dommage.
Alors, je trouvais qu'il y avait un aspect plus, déjà du fait d'être dans un monde contemporain, réaliste, etc. Déjà, mon mot pour le scénario, c'était politique. On est dans quelque chose de très politique. Il y a un vrai questionnement politique sur notre société actuelle. Dans V pour Vendetta, c'est plus un questionnement politique sur la société de Thatcher. Tu vois la nuance?
Oui,
c'était la société.
Non, voilà. Mais tu as quand même beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire entre Scarlett et V pour Vendetta. Alors, si tu veux me dire, oui, on pourrait trouver aussi plein de différences. C'est exact.
Non, je veux dire, V pour Vendetta, c'est les Anonymous, et les Indignés, c'est Wall Street, ça n'a rien à voir.
C'est ça, ben voilà, merci, t'as tout dit. Bon ben voilà, ben circuler. Hein.
Non, c'est vrai qu'on est plus dans une mouvance sociale que V pour Vendetta. V pour Vendetta, on est dans de la politique pour de la politique, on est dans de la vengeance pure.
On est dans de l'éveil social aussi.
Hein. Ouais, mais on est dans la vengeance dans V pour Vendetta.
Oui, mais c'est sa vengeance pour libérer le peuple.
Oui, mais son objectif, c'est de détruire la société dans V pour Vendetta.
De détruire cette société parce qu'elle emprisonne le peuple.
Dans Scarlett, c'est de changer la société, c'est différent. L'impression que j'ai eue, c'est que dans Scarlett, elle ne veut pas détruire la société. Est-ce qu'il y a du bon dans cette société? Il y a du mauvais, il y a du bon. Dans V pour Vendetta, V considère que toute la société est pourrie, il faut toute l'éliminer. Ce qui n'est pas faux, hein, telle qu'elle est décrite, la société dans V pour Vendetta. Tandis que dans Scarlett, il y a du bon dans la société. On présente aussi, plus l'histoire avance, parce qu'en fait chaque tome a un petit côté indépendant, chaque petit épisode a un petit côté indépendant entre guillemets, qui fait avancer l'histoire. Quand on présente par exemple les gens du FBI et de la police qui sont honnêtes et qui veulent faire avancer les choses et qu'il y a des gens bien des deux côtés, en fait il y a des cons, tandis que dans V pour Vendetta, dans le gouvernement, il y a qui de bien? Personne.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Ouais, bah très bien, sois pas d'accord avec moi.
Voilà, je suis pas d'accord avec toi. Par exemple, bon, j'en veux prendre le flic.
Oui.
Le flic, je suis désolé, mais j'en veux plus son nom. Celui qui enquête.
Effectivement.
Il n'est ni bon,
ni mauvais,
il est juste.
Oui.
Voilà. Après, tu as d'autres personnages aussi dans le gouvernement, par exemple celui qui dirige les médias, qui fait les choses parce qu'elles doivent être faites, parce qu'on lui demande de les faire, mais pas parce que c'est son choix, hein. Enfin, pas parce que c'est son choix profond, quoi.
Et je trouve que c'était plus manichéen dans V pour Vendetta quand même. C'est l'impression que j'ai eue. Alors, t'as raison, bon, je peux.
Peut-être, voilà. De toute façon, déjà, là, on n'est pas en train de chroniquer V, hein. On est en train de chroniquer Scarlett.
Mais, dessus. C'est intéressant comme parallèle.
Mais je trouve que voilà, moi, c'est ce qui m'a un tout petit peu déçu au niveau du scénario, c'est qu'on avait, pour moi, il y avait un trop gros goût de ça, de Vendetta. Et du coup, c'est un peu dommage parce que j'aurais vraiment aimé quelque chose d'un peu plus original de la part de Bendis sur son bébé, quoi.
Alors, l'originalité, pour moi, elle est dans la narration.
Vas-y.
La narration de Scarlett. Scarlett, c'est Scarlett qui nous parle. C'est elle qui nous parle et qui nous raconte les choses. C'est-à-dire que, dès le départ, le troisième mur et le quatrième mur est brisé.
Oui, non, elle
nous parle, elle parle directement au lecteur. On est vraiment... En gros, c'est un procédé qui est très intéressant parce qu'il nous met dans l'histoire. On fait partie de cette histoire-là, on est dans cette société. Oui.
Petit parallèle avec V. Donc là, elle prend comme témoin, comme témoin de moralité, le lecteur. V prend comme témoin de moralité Eve, parce que justement, il veut quelqu'un qui puisse raconter son histoire.
Effectivement. Donc, mais là, elle prend le lecteur comme témoin de moralité. Mais pour moi, c'est une approche intéressante. On retrouve l'approche qu'il avait eue un petit peu dans Daredevil avec la voix off de Daredevil. Mm. Et puis le coup de la voix off, parce qu'il aime beaucoup les voix off, il aime beaucoup les dialogues. Sauf que là, on a quelqu'un qui nous parle. Très bien, parce que les dialogues de Bendis, on ne le répétera jamais assez, les dialogues de Bendis sont toujours très très justes, très bons. Et très
la traduction est très bonne.
La traduction m'a semblé bonne, oui. C'est toujours difficile de dire qu'elle est bonne quand on n'a pas eu l'original. En tout cas, elle m'a semblé bonne.
Bah, vu qu'a priori ça nous éclate, c'est qu'a priori, ouais. C'est que je pense que la personne a fait du bon boulot. Quoi.
Oui, oui. Et c'est vrai que donc cette narration-là est très intéressante. Ce côté éclaté dans la narration aussi. On ne sait jamais à quel moment de l'histoire on se trouve. T'as l'impression que d'un coup, en gros, elle fait un arrêt sur image pour nous parler. Elle est en train de se faire exploser la face, et d'un coup, elle fait un arrêt sur image pour nous parler. Nous dire, écoutez, voilà, je vous explique pourquoi je suis arrivé là. Ça commence très choc. Ça commence, elle bute un flic.
Oui, mais justement, on est son témoin. On est là pour.
Et elle nous explique ensuite pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle n'avait pas le choix. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une.
Non, la narration est excellente. Je suis bien d'accord. C'est très dynamique. C'est intéressant sur bien des aspects parce qu'après tu
Pour du Bendis, excuse-moi de t'interrompre, il y a un truc intéressant, c'est que chaque épisode, j'ai l'impression qu'il la bosse cette série, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir sortir un tome en fait, parce que Malev dessine un peu lentement aussi. Et donc chaque épisode est une intrigue indépendante.
Et surtout, c'est que chaque épisode va nous présenter un autre côté de l'histoire finalement.
Beaucoup moins. Tu sais, les récits de Bendis, ils ont tendance à être étalés sur la longueur. C'est beaucoup moins le cas là, j'ai l'impression. C'est plus patate quoi.
Ben, c'est plus péchu parce que justement, je pense qu'en ayant plus d'un seul personnage comme tu avais dans Daredevil, parce que là, tu as Scarlett, tu as le gars du FBI, tu as l'inspecteur de police qui a voulu lécher les bottes et qui se retrouve finalement bien emmerdé. Et tu suis ces trois personnages et tu rajoutes à ça le copain. Qui avait été témoin de la scène du début et qui finalement devient un petit peu son
justice.
Qui devient voilà. Et franchement, tous les personnages qui tournent autour sont vachement intéressants parce que t'as aussi le point de vue des médias, t'as beaucoup de un travail qui est très dynamique sur la mise en page. Et du coup, on va arriver sur le travail de
Maliv, Alex Maliv, qui est un génie. Alors, vas-y, donne-moi ton mot, je te donnerai le mien après. Alors, ton mot.
Non, je vous donne mon mot, mais en fait, il faut imaginer un petit filet de bave qui fait. Voilà, c'est trop beau.
Moi, j'ai mis regard. J'ai refeuilleté là rapidement le bouquin et j'ai été bluffé par les regards. Tous ces regards de ces personnages qui sont vrais, je pense qu'ils travaillent d'après modèle, hein, Maliv. Tu feuillettes ce truc et tu passes d'une expression à une autre. C'est les regards de ces personnages, de Scarlett en particulier, sont vraiment prenants. Ça te capte l'œil, ça te prend, ça te fait rentrer dans le récit. En dehors de ça, en plus, il y a cette narration de Maliv qui est géniale, ce dessin très urbain, très réaliste, parce qu'il travaille d'après photo pour les décors, c'est sûr, peut-être pour les personnages aussi, ça j'en sais rien, qui est vraiment superbe. J'ai vraiment, enfin moi, c'est l'éclat, moi, j'adore, je suis à fond.
Voilà. Le passage où elle file le flic et où t'as une double page juste avec le rétro.
Oui. Et le regard.
Et le regard.
C'est, voilà. C'est toujours ses yeux, quoi. Elle nous regarde. Elle nous regarde, elle nous supplie, elle fait appel à nous. On est les témoins, et puis aussi, elle veut qu'on agisse, parce qu'elle ne nous veut pas que comme témoins, elle nous veut aussi comme acteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle nous prend à témoins pour qu'on devienne acteur de cette société qui part en vrille et qu'on tente de l'améliorer. Donc franchement, c'est très, très, très politique. Ce serait pas un gauchiste, Bendis ?
Peut-être.
Hein, franchement.
Un truc qui j'ai trouvé excellent aussi, c'est les jeunesses des différents personnages. Je sais pas si vous avez vu qu'ils sont racontés par des petites, comme des sortes de cartes de, voilà, c'est une carte avec un petit titre et à chaque fois t'as tout.
Nouvelle école, carte de baseball, école buissonnière, oui, quoi, il nous faut un petit retour.
J'ai interdit au moins de 12, Xbox, observation mutuelle, mort, soirée pyjama, raquette pour une fille, dernière fois, concert. Et du coup, on voit tous les personnages, leur vie, quoi.
Ouais, et puis encore un parti pris narratif très, très sympa et très réussi. On va pas s'attarder plus sur Scarlett parce qu'on pourrait en faire une grosse émission, on a déjà pas mal parlé. C'est une excellente série que je ne saurais que vous recommander, qui a évité de peu la splash page. Mais je voulais mettre autre chose en avant pour d'autres raisons. À conseiller à lire, c'est de la Turi.
Non, c'est vraiment excellent. Excellent.
Monstre en délire chez BKBD par Schlocky, Jego et Kevin. Monstre en délire nous raconte dans une bande dessinée de gags en une planche les aventures de monstres qui viennent s'installer chez les voisins, enfin qui viennent s'installer dans un quartier.
Dans un quartier résidentiel et les voisins observent ça d'un œil suspicieux, intrigué.
Alors, dérangé. Sur l'intrigue, ça m'a déjà, je vous le dis, fait penser à un truc qui, je vous dis, Edmond, mais non, l'école Abracadabra. On est typiquement dans le même genre de scénario. Pour moi, c'est pareil. T'as les trucs bizarres à côté des gens normaux.
Moi, ça m'a fait penser à Banlieusard.
Banlieusard.
Un film avec, ouais, c'est un Tom vieux Hanks. Film. Avec Tom Hanks, ouais.
Tom Hanks jeune.
Tom Hanks jeune, ouais.
Un des premiers.
Oui, je crois qu'il avait fait Big à l'époque.
Même pas, je crois que c'est après Big.
Enfin, bon. Non, si, c'était... Ouais. Non, remarque. Bah, vas-y, continue.
Et donc on va suivre ces monstres qui sont classiques. Hein. On a le Jason avec sa tronçonneuse, on a le zombie, on a l'homme aquatique, qui vont s'installer dans le quartier. Et donc forcément, ils sont pas méchants, mais ils ont une vue sur la réalité un peu différente de la nôtre, des goûts différents. Ils essaient de s'insérer dans la société aussi, et on voit avec quelles difficultés ils s'en sortent. Au niveau du dessin, alors c'est du cartoony gras.
Ouais, moi j'ai mis que c'était du Bob l'éponge, quoi.
Ouais, moi j'aime bien comme style de dessin. Ça va très bien avec. J'aime bien Bob l'éponge aussi, donc oui.
Voilà, ça n'a rien de péjoratif. Hein. C'est Bob l'éponge. C'est efficace pour l'histoire et pour le style, quoi. C'est efficace. Maintenant, c'est du Bob l'éponge, quoi.
Ça marchera très bien. Les gens normaux sont bien dessinés. J'ai bien aimé, par exemple, tout le passage où il regarde il y a un des gags où il regarde un film, genre le monstre du marais, etc. Le style graphique j'ai trouvé ça très sympa. Donc, au niveau du dessin, c'est efficace. Il y a un petit côté gras, justement, mais qui colle très très bien au gag. Franchement, c'est bien, quoi.
Au niveau du dessin, c'est très bien.
Ah, au niveau du scénario, quand tu dis au niveau du dessin, c'est bien, ça veut dire qu'au niveau du scénario, t'étais moins.
C'est pas que je suis moins, hein, c'est que au niveau du scénario, pour moi, j'ai mis débile, quoi. Dans le sens où c'est des trucs complètement débiles d'un bout à l'autre. Alors de temps en temps, ça m'a quand même fait sourire. Il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais voilà, j'ai passé un moment, parfois bon, parfois bof, mais c'était.
Et moi, j'ai trouvé ça basique, quoi. On est dans du gag, en une planche, tout ce qui est le plus basique. C'est pas exceptionnel, il y a effectivement des gars qui font plus sourire que d'autres. Certains même peuvent faire rire, mais moi je n'ai pas le rire facile car je suis quelqu'un de triste. Et non, voilà. En gros, en résumé, c'est une petite bande dessinée efficace. D'accord, il a eu raison sur Big, c'est pour ça qu'il me fait dessiner.
Big est que dans 88 et Banlieusards en 89.
D'accord, et c'est un film de. Et donc, Monstre en délire. Voilà. C'est pareil, c'est le truc sympa sans plus. Je pense qu'on peut passer à autre chose.
Joe Dante.
Voilà, je savais que c'était un bon réalisateur.
Passons à la suite.
Banlieusard, Joe Dante, Gremlins, Monstre en délire. Putain, je crois que j'ai l'impression que tout se lit. Tout est lié. Il y a un complot autour de ça.
Valérian et Laureline, l'intégrale, volume 6. Alors donc toujours un assemblage donc de trois tomes de Valérian et Laureline, donc je vous donne les titres. Otage de l'Ultraloom, L'Orphelin des Astres et Par des temps incertains.
Un album très très étrange.
Très disparate, je sais pas si ça peut se dire ou pas.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
J'ai mis hétéroclite au niveau du scénario.
J'ai mis bien mais pas top. Parce que les deux premiers tomes donc, nous racontent l'histoire d'un. C'est une poursuite en fait. Les otages et l'orphelin des astres, c'est une poursuite. Le gamin d'un sultan richissime qu'on a tenté de kidnapper et qui va
et
être.
En même temps que Laureline d'ailleurs, qui se fait embarquer avec lui. Voilà. Donc Valérian va le chercher, ça c'est le premier tome.
Et puis le deuxième tome, il s'enfuit.
Ils s'enfuient avec Valérian et Laureline et ils sont poursuivis parce que y a la tête du gamin est mise à prix.
Pour 1000 milliards de putty blocks.
Voilà, ce qui est beaucoup.
Ce qui est énorme.
Mmh. On ne le dira jamais assez. 1000 milliards de putty blocks, c'est énorme.
Donc ça, c'est les deux premiers tomes. Et le troisième tome, donc, qui est Par des temps incertains, est un tome qui là, nous fait avancer un petit peu plus donc, dans l'histoire, justement. Enfin, pas un petit peu plus, d'ailleurs, qui nous fait beaucoup avancer dans l'histoire de la Terre.
Et qui demande d'avoir bien en mémoire les tomes précédents.
Exactement. Et du coup, peut-être qu'un jour, ils arriveront même à retrouver Galaxy City, en fait.
Les deux premières histoires sont légères, sont fun. C'est pas prise de tête, c'est sympa. Mais on perd un petit peu toute la dimension politique qu'on pouvait avoir jusqu'ici dans les Valérian et Laureline. On passe un bon moment. Franchement, c'est sympa. Si, y a un petit peu de critique de la société vis-à-vis du monde du cinéma, des médias, etc. Mais comparé aux autres albums, ça reste assez léger. Moi, je passe un bon moment, j'ai bien rigolé, les dialogues sont sympas, la relation entre Valérian et Laureline, qui là, pour le coup, sont clairement ensemble, là, c'est sûr, au moins, il n'y a plus de doute là-dessus quelques tomes, mais là, franchement, c'est dit, c'est montré, etc. Voilà, et puis en plus, ça fait dans les années 90, donc le libertinage était peut-être moins à la mode que dans les premiers tomes dans les années 70, donc ils forment un vrai couple, tu vois.
Quoique.
Quoique. Oui, dans tes années 90, mais tu étais jeune. Et donc, non, franchement, sympathique. Le personnage du fils du sultan, un peu pénible, etc., n'est pas trop mal traité, en fin de compte. Quand je l'ai vu débarquer, j'avais peur qu'il nous fasse le petit chiant un peu trop basique, classique, le faire-valoir comique, etc. Il n'est pas trop mal traité. Il n'est pas trop débile. Il est casse-couille par moment, mais sinon, la plupart du temps, ça va. T'as pas un truc insupportable dedans. Ils se sont fait plaisir en faisant réapparaître aussi beaucoup de personnages
des tomes précédents.
Ouais, des tomes précédents.
Et on arrive donc au dernier.
Et là, il y a des choses à dire.
Par des temps incertains, où là, on va avoir l'affrontement entre Satan
et Dieu.
Et Dieu. Avec Jésus aussi, qui est là.
Ouais, Jésus. Et le Saint-Esprit.
Oui.
Là, on retourne dans le côté politique. Alors déjà, ce qui est difficile dans ce tome-là, c'est que si on a lu, comme nous, il y a un peu longtemps avant, les tomes, les Foudres d'Ipsis principalement, et je crois que c'est Métro Châtelet...
Ouais, où c'est justement la fin de la Terre.
Voilà, la fin de la Terre. On peut vite être un peu largué, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui répliquent. On revoit des personnages qu'on avait vus auparavant dans Valérian et Laureline, mais dans des moments temporels, enfin des lignes temporelles différentes, donc des personnages légèrement différents. Là, on retrouve vraiment le côté science-fiction temporelle, quoi. Voyage dans le temps et compagnie, plus le côté politique avec les dieux qui sont liés à des grands conglomérats commerciaux. Là, ils se permettent de trasher un peu, quoi.
Non, ils trashent un peu. Puis, surtout, moi, je trouve le gros intérêt, c'est que tu avances bien dans l'histoire. On essaie de trouver enfin la réponse à qu'est-ce qui est arrivé à la Terre, quoi.
Oui, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Valérian et Laureline savent ce qui est arrivé, nous, toujours pas.
On le saura dans les tomes suivants, j'imagine, vu que les trois prochains sont les trois derniers.
Ben, j'espère, parce que là, je t'avoue que, comme moi, j'ai lié avec les intégrales, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ça, je suis un peu... J'attends la suite, quoi.
Les trois prochains sont les trois derniers. Donc, au niveau du recueil, il y a moins de... Alors après, je pense que c'est aussi... Bah, il fallait faire comme ça, mais il y a moins de... Comment dire, de cohérence que dans les recueils précédents. Parce qu'effectivement, les deux premières histoires vont ensemble. Le dernier est vraiment à part, et je pense, et une introduction au tome suivant. Mais c'était pour, je pense, avoir quelque chose qui tienne la route et éviter de faire un intégral de deux tomes, puis un de quatre, ainsi de suite. J'espère qu'ils vont faire un intégral aussi des hors-séries qui étaient sorties. Il y a eu des hors-séries qui te présentent l'univers, le monde, une sorte d'encyclopédie de Valérian et Laureline, qui était sortie en deux tomes. Ce serait pas mal qu'ils fassent un intégral de ce truc-là en un seul tome. En tout cas, belle édition de chez Dargo. Comme d'habitude, on a Stan Barrett qui nous fait une introduction sympathique, même si au niveau de l'introduction, là, je pense qu'il est plus, ça va, plus il fait un peu de remplissage, je trouve.
Bah, c'est moins dense et... Alors peut-être parce que du coup c'est plus proche de nous, c'est un peu.
Oui, le concept ça, de ouais, on a moins besoin de savoir comment c'était l'époque, quoi.
Ça perd un peu de sa pertinence, quoi.
Ça perd un peu de sa pertinence, et puis voilà, les fiches pour nous dire tel personnage, enfin pour nous parler des monstres, etc. On est plus dans le côté descriptif et moins dans l'analyse et dans la remise dans le contexte de l'époque.
C'était intéressant, c'est justement le travail de Chris, enfin, les autres travaux de...
Oui, il nous parle des autres travaux qu'ils ont faits en parallèle, avec d'autres auteurs, dans d'autres domaines, en littérature, etc. Valérian et Laureline est toujours une excellente série que je ne saurais que recommander. En plus, là, moi, j'en suis à un stade où c'est des histoires que je n'avais jamais lues. Voilà. J'ai hâte de lire le prochain tome qui va finir la série. Et ça va être pas mal parce qu'on va avoir un intégral qui va sortir assez peu de temps avant après le dernier tome en individuel. Et je trouve ça plutôt bien. Bienvenu parce que c'est une démarche pas si commerciale que ça. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura le tome 7. J'espère.
Blotch Page.
En l'absence de bonnes idées pour faire une introduction sur cette splash page, nous allons tenter un concours de blagues avec des jeux de mots débiles.
Ok. Bah écoute, c'est l'histoire d'un minot qui a tort.
C'est un gars, il travaille dans une mine tout en haut, et là-bas, il rencontre le dieu Thor. C'est la mine au Thor.
On va s'arrêter là parce que sinon ça va vraiment être minable. Désolé.
Voilà, vous nous disiez que nos intros étaient parfois minables. Là, on assume. C'est vraiment.
Je pense qu'on a touché le fond là.
On a touché le fond. Faudra qu'on trouve intéressant. Faudrait qu'on fasse des interviews à chaque fois. Ça nous permet d'éviter.
Tu as touché le fond dans ton petit pull marine. Je sors.
Bac ABD nous propose une bande dessinée de David Bouaziz qui s'appelle Minotaur. C'est le tome 1. Ça s'appelle Le Saut des Inutiles. Cette bande dessinée nous raconte comment une jeune fille et un robot qui doivent être emmenés au palais du sultan s'écrasent au milieu d'une zone, on va dire, interdite, avec plein de monstres mécanico-charnels. Ouais, c'est ça en gros. Hein.
Ouais, mais c'est pas
biomécanique.
De la... Biomécanique. Voilà, mais ils disent que c'est pas de la vraie vie.
Voilà, des monstres biomécaniques et essayent de survivre et sont sauvés par un Minotaure. Sauf que les Minotaures ont été créés il y a très longtemps par le sultanat et ont été tous exterminés parce que ils s'étaient un peu rebellés. Il y en avait très très peu.
Ils étaient 8, je crois.
Et c'est pas normal donc qu'il y ait un Minotaure qui soit survivant. Et donc nous allons suivre l'histoire de ce Minotaure du point de vue donc de la jeune fille qui est vouée à aller au palais du sultan et ce robot un peu débile qui est là pour donner un coup de main et qui est un petit peu le faire-valoir comique de l'histoire.
Et les pilotes légèrement comiques.
Voilà, et les pilotes qui sont les faire-valoir chars à canon de l'histoire.
Voilà. Ouais.
On part sur quelque chose de très basique au niveau du scénario, des gens qui s'écrasent dans un endroit dangereux et essayent de s'en sortir, et ça s'enchaîne sur un gros, une grosse aventure de science-fiction politique avec des complots, des trahisons, vizirs, mariages, création de scientifiques fous, ainsi de suite, ainsi de suite. Clairement, j'ai eu l'impression d'être revenu à l'époque de Métal Hurlant. Je dis revenu, mais en fait, j'ai pas connu cette époque, mais enfin, mal. Parce que le dessin de David Bouaziz, et je pense qu'il appréciera le compliment, m'a énormément fait penser à un mélange entre du Tardi et du Mobius. Tardi pour les gueules de ses personnages, les visages un peu des pilotes, tu sais, avec ses nez un petit peu ronds, etc. Et Mobius pour ses déliés, ses décors, un peu. Il y a un peu de Casa aussi dedans. Enfin bon. Je te balance tous des gens qui sont de cette époque Métal Hurlant au milieu.
Ouais, enfin c'est à propos. Je veux dire, tu sors pas non plus Casa et Mobius juste comme ça pour faire plaisir, quoi.
Non.
Il y a quand même des traits qui ressemblent, qui font penser à.
Qui font penser à. À côté de ça, une colorisation un petit peu plus en demi-teinte, tout en douceur. Alors qu'il y a un défaut à mon goût, c'est que parfois les personnages sont trop dans le décor. On ne voit pas assez ressortir. Je trouve que la mise en valeur de l'action est dommage. La couleur ne met pas assez en valeur l'action. Même si elle est très jolie, cette couleur, un peu dans des pastels, un côté un peu terne, un petit peu rouillé, ce côté un peu sale, poussiéreux. Et puis ce mélange d'ambiance, ça y est, je trouve plus orientale, avec le sultanat,
ouais.
Des costumes très très accentués. J'ai pensé un peu au caractère design de Mobius pour Dune. Ces côtés où ils en font des tonnes.
Ah, ça m'a fait penser, moi, à la princesse Amidala dans Star Wars.
Il y a de ça aussi, oui.
La menace fantôme.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça, dans ce côté-là. Donc, quelque chose qui, d'un point de vue graphique, moi, j'étais vraiment comblé.
Je trouve ça très très riche, très très riche, très intéressant. Alors c'est vrai que la couleur, comme tu m'as dit, sur les personnages qui ressortent du coup un peu moins bien, ça c'est un peu dommage. Peut-être que du coup ce sera quelque chose qui sera un peu corrigé dans le tome 2 et 3, parce que visiblement ce sera une trilogie, clairement dite, donc du coup on n'aura pas plus et pas moins, on espère. Au niveau du scénario, moi je trouve que c'est quand même... Vas-y, excuse-moi.
Juste revenir sur le dessin, mais ça y est, j'ai perdu mon idée, je t'ai coupé pour rien, c'était minable, j'y reviendrai peut-être plus tard quand ça me reviendra. Oui, au niveau des détails, dans les décors sont très détaillés, plein de petits objets, de petits trucs, j'ai pensé à du Jeff Darrow, pour citer une référence qui déchire.
Et ben ouais, en fait, la souveraine, tu m'as perdu.
Là, je t'ai perdu, Geoff Darrow. Bon, c'est pas grave. Geoff Darrow, c'était un dessinateur qui a beaucoup bossé avec Frank Miller sur Big Boy et Big Man et Rusty, qui avait fait un dessin animé d'ailleurs il y a peu, si tu veux voir ce que ça donne. Geoff Darrow, il a fait des trucs grandioses, mais ça y est, ça me revient plus. Bon, ça m'a fait penser à ça. Donc, tu disais au niveau du scénario.
Bien, mais j'étais un peu triste. Parce qu'en fait, la série s'appelle Le Minotaure. Et finalement, je me dis que l'essentiel de l'histoire ne sera pas le Minotaure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que le Minotaure, j'ai l'impression que ce sera qu'un prétexte pour nous raconter autre chose.
Ouais, mais il est quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment au cœur de l'histoire. C'est-à-dire que... Au départ, on est vraiment très extérieur au personnage. Et plus on avance dans le récit... Plus on le rencontre, plus on le découvre, plus on apprend sur son passé, sur ses origines. Et je pense qu'il va être plus proactif dans la suite des événements. Là, il subit dans ce tome-là vraiment ce qui se passe. Je veux dire, on apprend sur ses origines et les origines de son espèce, mais très peu sur lui-même en fait, sur comment il en est arrivé là, comment est-ce qu'il a survécu au massacre des autres Minotaures alors qu'ils sont censés tous être morts. Et je pense que ça va venir dans les autres tomes et qu'on va plus être centré sur ce personnage. C'est l'impression que ça m'a donné. Mais là, je suis dans la prospective. Je dis peut-être n'importe quoi. Hein.
Bah, on verra. Parce que moi, j'avoue, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Par contre, un truc quand même sur le dessin, c'est le Minotaure est splendide.
Oh oui, dans le Minotaure avec ses.
Il est vraiment. Ouais, je sais pas.
Et puis même les autres
il a vraiment une beauté animale quoi.
Les autres quand ils sont représentés,
il a un côté
aussi,
qui est très
massif, bestial.
Très bestial, mais tout en ayant quand même un côté humain quoi. C'est...
Non, moi je suis à fond de cette série. Je pense que c'est la bande dessinée qui va peut-être permettre à Bakabédé de se retrouver dans la cour des grands quoi. S'il continue à faire des choix aussi intelligent, aussi intéressant, parce que pour moi cette BD là elle peut toucher tous les nostalgiques de l'époque heavy metal hurlant, mais aussi parce qu'il y a des propos contemporains, il y a quelque chose qui tient la route, il y a une richesse qui est intéressante dans le scénario est riche, le dessin est riche, il y a beaucoup d'informations. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose en SF qui tient la route, en SF entre guillemets plus fantastique que de la SF qui marche maintenant quoi. Enfin pour moi c'est quelque chose qui peut vraiment bien cartonner, alors que même les séries qui pour moi chez Bakabédé avaient de la qualité jusqu'ici, à chaque fois j'avais trouvé un petit défaut, ne serait-ce que éditorial ou un petit défaut dans le scénario, etc., ou bien que ce soit un genre très précis. Pour moi voilà, chez Bakabédé jusqu'ici ils avaient sorti de la BD à gag qui marche très très bien pour moi sans problème pour de la BD de supermarché en gros, et les autres essais qu'ils avaient fait qui étaient plus intellectuels ou plus avancés, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qui me bloquait un petit peu. Là cette bande dessinée là pour moi je suis comblé, je veux la suite là maintenant
tout de suite. Mais tu vois c'est un petit peu, je trouve qu'il y a un petit parallèle entre Bakabédé et Bambou quoi.
Dans ce cas-là, j'ai l'impression que Bakabédé vont plus vite que Bambou.
Oui, ils ont peut-être moins attendu qu'eux, mais ceux qui faisaient beaucoup d'humour au départ commencent à se tourner vers une BD un peu plus sérieuse. Par contre, je ne suis pas certain que Le Minotaure soit une série qui restera une référence chez... Enfin, il faut voir ensuite les deux tomes suivants, mais je pense que pour qu'une maison d'édition comme ça vraiment passe de suite dans le statut au-dessus, je pense qu'il faut une série qui soit vraiment un petit peu à rallonge pour que c'est un succès vraiment dans la durée, en fait.
Ouais.
Là, en trois tomes, je ne suis pas certain que ça
fasse. Peut-être plus grand public aussi dans les thématiques.
Ouais, je ne suis pas sûr que sur trois tomes, ils arrivent à tenir, à monter d'un coup, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne série. Et voilà, pour Bakabédé, qui a quand même que quelques années maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 3 ou 4 ans ?
Oui, 3 à 4 ans. Un peu, ouais, ça, ils n'ont pas près le même âge que notre podcast, hein, il me semble.
Oui, à peu près.
Ils ont un peu plus de 2 ans, je crois. David Bouaziz, donc, l'auteur. Donc, c'est un graphiste, il est issu du graphiste, il a bossé dans le jeu vidéo, comme beaucoup de jeunes auteurs maintenant. D'origine hispano-algérienne. Comme quoi, l'immigration, ça peut apporter de très bonnes choses.
Attends, celui-là, il paraît quand de podcast ouais, tu vas être un peu tard. Hein.
Ouais, on verra.
Le 13 mai, non, ouais, non, sera fini déjà.
Ouais, il a fait une première BD qui s'appelle L'orgueil des tortillas, qui était passée chez Carabas, un autre petit éditeur que j'aime bien aussi, et qui racontait l'histoire de trésor dans une tour que je n'ai pas lu, effectivement, et qui apparemment. La tour d'El Dirsum. Voilà, chercher un trésor là-dedans pour des aventuriers. Je connais très peu cet auteur. Il a un blog qui est très très bien foutu, très très beau. Il a fait une petite animation pour présenter Minotaur aussi. Il fait beaucoup son auto-promo lui-même de son côté. Maintenant, je pense que effectivement, BacaBD, en tant que petite structure, n'a pas les moyens d'assurer une présence forte sur le net. Franchement, son travail vaut le coup. Lisez cette BD, quoi. Jetez-vous dessus. Je pense qu'il faut lire Minotaur pour encourager un éditeur qui, au bout de 3 ans, est toujours là et mérite qu'on lui donne un coup de main. Et plus que pour lui donner un coup de main, parce qu'on n'est pas non plus là pour faire l'aumône, pour acheter une bonne BD, quoi.
Surtout que visiblement, enfin, les avis sont un peu partagés. Tu me dis que c'était quoi ce BD Geste que...
The BD Geste, c'est un peu moyen comme critique, c'est pas top. Chez Scénario, ils ont beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Faites-vous votre avis. Achetez-la parce que.
Ah, ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit faites-vous votre propre avis.
Ouais. Ou peut-être au moins 5-10 minutes. Hein.
Ouais, non, c'est bien. On revient aux fondamentaux.
Matemanga.
Magie! Mais Théo a disparu, mais oh, il s'est transformé en Matt! Mon Dieu, c'est le complot des Matts! Bonjour Matt!
Bonjour Pied, bonjour les auditeurs. Ouais, on s'est mis d'accord, on a décidé de te pourrir la vie jusqu'au bout. Alors comme il n'est pas là, je me suis dit je vais prendre le relais. Voilà. Ça, c'est le passage de bâton.
Mais on fera un coup de magie dans quelques minutes lorsque tu auras fini de parler, que je t'aurai viré méchamment pour que Théo reprenne le contrôle de l'émission. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un nouveau genre, on n'en a pas parlé encore surtout, qui est le Seinen.
Oui, c'est sûr qu'on n'en a pas du tout parlé, CF les anciennes émissions, Black Lagoon, Winland Saga, Pluto, tout ça, donc c'est un sujet dont on parle jamais dans voilà.
Donc le Seinen, en gros, si j'ai bien compris, hein, pour définir le genre, c'est les mangas que je lis.
Oui, voilà.
À partir du moment où je le lis, c'est du Seinen, c'est ça?
Ouais, à peu près, ouais. Voilà, ça y est, on a défini, on passe directement au manga.
Bon, allez, dis-nous ce que c'est que cette chose.
Bon, le Seinen, en fait, encore une fois, c'est la cible dont on parle. La cible, en japonais, Seinen, ça veut dire jeune homme. Donc, pour décrire le Seinen rapidement, contrairement au Shonen, qui focalisait sur, on va dire, l'apprentissage de la vie et la difficulté du passage à l'âge adulte, là, on va être dans des environnements qui sont plus adultes, plus sérieux, voire plus violents, et où la réalité est sans filtre et on prend la réalité en direct. Les styles graphiques, du coup, deviennent beaucoup plus travaillés, le fond, les trames sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus, des fois, oppressantes pour certains mangas du genre. Et les personnages et scénarios sont du coup beaucoup plus complexes. La cible, c'est pour des gens de 30 et quelques années, quoi. C'est,
ah oui, d'accord, jeune homme, c'est pas...
C'est, en fait, oui. On va dire, c'est la cible, c'est 15-35 ans.
D'accord, oui, ça, c'est jeune homme au sens large, ouais.
Voilà, jeunes adultes.
Ok.
Jeunes adultes. Donc, on a des personnages qui sont beaucoup plus, et des scénarios qui sont beaucoup plus complexes. On a des profils psychologiques des personnages qui sont plus approfondis et souvent beaucoup plus torturés. On a des arcs narratifs et des histoires qui sont plus centrés sur justement la réaction d'un personnage et des actions du personnage qui sont basées sur la psychologie et sur le choc du moment et pas sur il va s'écrouler et grâce à l'amitié de ses coéquipiers, il va surmonter le problème.
On a aussi des séries beaucoup plus courtes, j'ai l'impression, en seinen la plupart du temps.
Oui et non. Je t'ai parlé de Vinland Saga. Là, on en est à un certain nombre de volumes. Tu vas beaucoup plus facilement trouver, en effet, des one-shots ou des séries courtes terminées dans le seinen, c'est sûr.
Enfin, je pense moi à tout ce que je connais bien, c'est du
Voilà,
Urasawa.
t'as Pluto, Monster, qui sont des séries qui sont terminées. 20th Century Boys, mine de rien, c'est quand même un certain nombre de volumes.
Ouais.
Et bon, tu peux le classer là-dedans. Tu vas avoir du Akira.
Akira, c'est du seinen.
Akira, c'est du seinen, oui.
Oui, ça commence un peu comme du shojo, comme du shojo, du shonen quand même, Akira.
Rappelle-toi quand même que c'est une bande de loubards qui
Ouais, c'est vrai.
se drogue, qui fait craquer des cours pour aller mettre l'assistante
Oui.
de l'école, ah mince, l'infirmière enceinte. Bon, voilà quoi, c'est.
C'est vrai que c'est un peu plus sérieux, c'est vrai, effectivement. C'est moi, là, parce que je l'ai lu quand j'étais ado, je me suis dit c'est de la BD pour ado, mais en fait, non.
Ouais, mais tu l'as lu, t'avais quoi, 17-18 ans?
Ouais, peut-être moins même.
T'avais
Je sais
pas
plus.
12 ans.
Ouais, c'est vrai.
Voilà,
Ouais.
c'est pas Pokémon où ton amitié avec Pikachu va te permettre de gagner le badge lumière ou je sais pas quoi, quoi.
Ouais, c'est vrai. Les grandes séries de Seinen qui. Alors, déjà, les grandes séries Seinen qu'on peut connaître en France. Déjà, est-ce qu'on a eu des animés, enfin des films, des séries d'animation quand on était jeune, enfin nous, parce que tous nos disent, voilà, qui étaient du genre Seinen. On a vu
Alors,
beaucoup de
du genre
shonen, de shoujo.
seinen, je vais parler d'un truc typiquement Okuto no Ken, Ken le survivant. Si tu regardes la version japonaise, non censurée et non détruite par nos chers doubleurs français, en fait,
Ils n'ont pas détruit.
c'est
Ils n'ont pas
très.
détruit. Attends, je suis désolé. Ils n'ont pas détruit Ken le Survivant. Ils l'ont réécrit pour en faire quelque chose qui transcende Ken le Survivant, qui va au-delà du genre. Regarder un Ken le Survivant avec les dialogues d'époque, ça reste quelque chose d'assez agréable en soi,
Oui, ça reste comique en
mais c'est
fait.
pas Ken le Survivant. Je suis d'accord.
C'est pas Ken le survivant. Si tu regardes la série initialement, bon, c'est un truc qui est très, qui est vraiment violent.
Et
Donc,
crypto-gay.
et crypto, ça c'est clair. Et puis il y a du néonazisme au milieu. Il y a du SM. Il y a énormément de trucs qui ont été dans une moindre mesure, on va dire que Nicky Larson, le manga papier, est beaucoup plus adulte que l'animé qu'on a pu en
Ouais,
voir
mais
à
là, est-ce qu'on n'est
l'époque.
pas, est-ce que, là, est-ce qu'on n'est pas quand même dans du shonen, dans le sens où ce qui peut nous perturber en tant
Alors,
qu'Européens,
je me
les...
rappelle juste le premier chapitre où son coéquipier se fait
Descends.
choper par les grands méchants, abattre comme un chien. Il y a dans deuxième ou troisième chapitre l'histoire avec Angel Dust, qui est une drogue qui permet aux gens
Oui.
d'être des surhommes, et où Nicky est obligé pour s'en sortir de décapiter avec une corde à piano le type en question.
On est à la frontière, quoi, dans ce genre de série-là. C'est-à-dire que la
On
frontière
est
entre Shonen et Seinen, j'ai l'impression.
exactement. C'est mais voilà, entre guillemets, un shonen type Naruto ou Fairy Tail. Je le mettrais sans aucun problème dans les mains de mon gosse à 10 ans. Nicky Larson, je le mettrais pas dans les mains de mon gosse à 10 ans.
Ok. Justement, est-ce qu'il. Seinen, pour moi, c'était adulte et pas jeune homme. Il y a un genre adulte, entre guillemets, pour femme à côté, genre le che...
Oui, j'en parlerai d'ailleurs la prochaine fois.
D'accord.
Et c'est le Josei.
Le Josei. Ok, on parlera du Josei la prochaine fois. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme manga pour représenter le genre Seinen?
Alors j'ai pris ben, pour une fois un one shot qui
Ouais!
s'appelle Hideout, qui est sorti chez Kihun pour 7,65 €. C'est un one shot de alors Kakikazi Masasumi.
Qui a du... Qui a
C'est
du
le
kaki quasi... Vas-y, continue.
c'est l'auteur de Re... c'est l'auteur de Rainbow aussi qui est assez connu pour ça.
Ouais, je connais pas, mais bon. Hein.
Donc le sujet, donc après une assez rapide intro en couleur, et, très bonne planche, on suit l'histoire d'un couple qui se rend sur une île paradisiaque pour prendre un nouveau départ suite à un incident tragique dans leur vie et dans leur vie de couple. Et on apprendra très rapidement que pour le héros, le nouveau départ, ça correspond en fait à l'action de tuer sa femme.
C'est un bon départ.
Voilà, on repart à zéro tranquillement après ça. Donc, bah, je vais m'attacher un peu au scénario. Le scénario, c'est un scénario que j'ai trouvé très prenant, qui s'articule autour de la situation sur l'île, entrecoupé de flashbacks qui racontent la descente aux enfers du héros, qui est un écrivain qui a de plus en plus de mal à vendre ses œuvres. Et bon, je vais pas raconter l'incident parce que bah, c'est à
Ouais.
découvrir. Il y a très bons rebondissements. Par contre, c'est vrai que le scénario est centré sur le personnage, sur le mari du couple, et donc on ne parle que de lui, et il y a certains éléments qui ne sont pas du tout traités et où on n'a aucune information complémentaire. Bon, c'est un parti pris qui est quand même cohérent parce que ben, ces informations-là, sinon il aurait fallu trouver un artifice pour avoir des news et des raisons du pourquoi du comment. Et c'est un point qui a été souvent reproché à ce volume, à ce one shot.
Donc tu me dis qu'il y a beaucoup de rebondissements, etc. En un seul tome, manga classique, c'est
Oui,
un tome un peu plus épais.
pardon?
C'est un tome un peu plus épais ou...
J'ai pas le nombre de pages, mais
Ouais.
c'est.
Parce que tel que tu me le décris, tel que tu me le dis, ça donne quand même l'idée d'avoir une narration très très concentrée, ce qui n'est pas très très dans les habitudes japonaises.
C'est justement, c'est pour ça que je disais, il y a certains éléments sur lesquels il a pas cherché à s'étendre, parce que ben, justement il voulait faire un one shot, et donc du coup ben, il a focalisé sur l'histoire qui avait lieu et sur le personnage. C'est vrai que c'est un volume en 9 chapitres. Et en 9 chapitres, il arrive quand même à mettre des rebondissements assez sympathiques. Alors ça va à 100 à l'heure, hein, c'est clair,
Ouais.
mais c'est efficace, c'est très efficace.
Ouais, 9 chapitres, ça doit faire genre 180 pages, un peu
Oui,
plus,
ben,
ouais,
c'est un manga normal, hein, du
Ok.
moins normal, c'est un manga, on va dire
Ok.
classique, oui, c'est
Donc,
ça, entre
du
200
bon
pages.
scénar bien prenant. Le dessin.
Le dessin, pour moi, c'est la force du scénario. C'est la force du scénario. La force du scénario, n'importe quoi.
Le
La force
dessin,
des
c'est la force du
bâtisseurs.
scénario. J'aime bien. Merci.
J'ai trouvé que il avait une très très grande maîtrise du dessin. Alors c'est un dessin qui se veut réaliste tout en étant un peu horreur. Donc il y a certains moments où tu vas avoir des exagérations au niveau des traits, au niveau des. Au niveau du dessin, c'est un dessin qui est très rempli, qui est très très rempli. Et en fait, il alterne, il adapte en fait son dessin à la situation. Là, quand il traite de la situation sur l'île, de tout ce qui se passe et tout le côté un peu horreur. Donc, je parle d'horreur. Je tiens à te dire tout de suite, c'est pas de l'horreur avec des zombies, des créatures surnaturelles, tout ça. Non, 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 c'est du contemporain qui pourrait se passer sur une île qui pourrait se passer actuellement, quoi.
Oui, on est dans du
C'est
réaliste, il n'y a pas de
du
fantastique, quoi.
réaliste, il n'y a pas de fantastique. Donc quand il traite de son côté tout ce qui se passe sur l'île, c'est très noir, c'est des traits un peu sales. Tu sens le côté sale, noir, glauque du truc. Alors que quand il traite des flashbacks. Dans la civilisation, dans tout ce qui se passait avant. Là, c'est très 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 lumineux. C'est justement là, il y a assez peu de trame, il y a assez peu de. Tu te retrouves dans un dessin très clair qui contraste énormément avec la suite, avec le ce qui se passe dans le temps présent.
Ok. Donc, et tu me dis, le premier chapitre en couleur, bon, ça c'est un classique en
Non, non, non. Les
général.
premières pages. Les
Ah, les
premières
premières, oui,
pages
les
du
premières,
premier
c'est un
chapitre,
classique ça en
c'est très bon.
manga. C'est un classique en manga en
Non,
général.
pas toujours, pas toujours. Il y a beaucoup de mangas où
Ça veut surtout dire que dans le bouquin dans lequel il était prépublié, c'était un événement, quoi.
Voilà, exactement, exactement. Mais ça fait toujours plaisir parce que bah surtout que Kiun a fait une édition qui est, j'allais dire superlative. Ils ont fait vraiment un super boulot. J'ai trouvé que non, par rapport à ce volume-là, ça. J'ai eu plaisir à lire, à l'avoir dans les mains, découvrir ces feuilles en couleur au début. Je m'y attendais pas, c'était la bonne surprise de l'achat, quoi.
Tu me donnes encore envie là. En plus, sur un one shot, tu me donnes doublement envie.
Ah oui, c'est que 7,65€, tu peux craquer quand même. Ouais.
Oui, comme dirait Vendry, qu'est-ce que 7,65€ quand on a la santé?
Exactement. Sur le dessin, il y a certains artifices que j'ai trouvé très sympathiques. C'est qu'à certains moments du dessin, il y a des traits blancs qui ont été faits sur la page. Et en fait, au départ, c'est vrai que c'est surprenant. On se demande, mais pourquoi il a fait ses traits? Pourquoi? Et en fait, en le relisant avec une deuxième lecture, en analysant un peu les traits, etc., le dessin, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un moyen de faire intervenir la folie dans la psychologie du personnage. Et il y a comme ça des petits artifices qui sont très très bien trouvés et que j'ai trouvé vraiment très sympa, très prenant.
Donc, Hideout, un thriller en one-shot chez Kiyun, très
Voilà.
sympathique, qu'est-ce que tu en dis?
Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous allez sur le site de l'éditeur, si vous allez voir Hideout, vous avez possibilité de lire en streaming gratuite et de manière gratuite et légale le premier chapitre du manga.
D'accord, pas d'animation en fait sur cette série?
Non, pas d'animé sur cette série, je pense pas.
D'accord. Ouais, sur un one shot, ils auraient fait une OAV.
Bah, c'est récent, hein, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, hein, je vais te dire la date de sortie. Zut. Time
Attends,
out.
je meuble pendant ce temps-là si tu veux. Pa 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 la pa 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 la pa la pa 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 la pa pa. Oui, c'est bon, j'ai assez meublé.
Non, non, vas-y, continue. En plus, j'aime bien t'entendre chanter.
Ah, super. qu'est-ce que je pourrais chanter? Les lavandières du. Non.
Ouais, bon, bah non, il est sorti il y a quelques mois. Il est sorti il y a quelques mois. Il est sorti en 2010, novembre 2010, je crois, si je dis pas
D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette découverte qui a l'air fort sympathique. On se retrouve le mois prochain où là, tu vas nous parler du.
d'erreur. Je ne sais pas encore de quel José je vais parler parce que je ne suis pas très
Donc tu vas
connaisseur.
nous parler du genre de Josei, ok. Donc tu vas nous parler du Josette. Et ben merci, on va refaire un tour de magie, tu vas disparaître. Et Thio va reprendre sa place.
Et j'ai donné le bâton à Thio pour qu'il puisse te battre.
Ciao, à plus, bye.
Ciao, salut.
Hors-sujet.
Pour notre hors-sujet, Thio va nous parler d'un sujet de société très important. C'est le retour de la mode
des talons roses, des talons aiguilles roses.
Voilà.
J'ai lu ça dans Télé Loisirs, c'est un bouquin de référence, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de lectures intéressantes, et donc j'ai que ça. Voilà. Il m'a demandé un HS-pied, et j'ai dit, bah, tiens, écoute, j'ai lu ça.
Bon, moi, entre-temps, j'ai quand même réussi à regarder la série Jekyll, qui est autrement plus intéressante,
oui, bah, vas-y, dis
que... Je dis ça parce que je porte pas de talons, toi peut-être,
voilà,
mais
non,
moi, c'est
non,
pas mon
non,
cas.
Mais voilà, dis que mes sujets, c'est de la merde, quoi, vas-y.
Ouais, voilà. Une série écrite par Steven Moffat, le scénariste génial qui nous a fait la série Sherlock récemment très très bien, et qui est à l'heure actuelle le scénariste en chef de la série Doctor Who, qui est toujours aussi très très bien. Donc, de la série anglaise.
Exact.
Qui passe sur la BBC. C'est dingue, hein, comme les chaînes publiques anglaises arrivent à faire des choses bien en série télé. Et donc, oui.
Ça, c'est bas, ça.
Oui, je sais, c'est bas. Et donc, ben, nous suivons les aventures du docteur Jackman, joué par James Nesbitt, qui est un. Oui, quoi, j'ai dit un gros mot, c'est ça?
Non, c'est que tu as un aplomb quand tu donnes les noms des gens, tu fais comme ça.
Ouais, c'est comme ça. Mais des fois, j'ai les noms en tête, tu vois, c'est parce que j'ai vu le générique il y a pas longtemps. Qui, en gros, bah, a un problème, c'est que il a un mauvais côté qui ressort un peu aléatoirement et il s'est organisé pour vivre sa vie en parallèle avec lui. C'est-à-dire que dans un dictaphone, ils se donnent des instructions les uns les autres, ils se sont autorisés à faire certaines choses et pas d'autres. Pourquoi? Pas bah parce que le docteur Jackman a décidé que il dénoncerait à la police son mauvais côté si son mauvais côté faisait des conneries, et le mauvais côté a dit qu'il se tirait une balle dans la tête si le docteur Jackman ne laissait pas faire un peu ce qu'il voulait.
Ça va être facile, ça, à
ça
gérer.
Va être facile. Et donc la série commence. Il fait appel à une jeune infirmière spécialisée en psychologie pour le surveiller, etc. Sachant que le docteur en question a une famille et qui s'est arrangé pour que son côté obscur l'ignore. Et donc, on va suivre ça en parallèle, parce qu'il va étudier le truc. Oui, il n'a pas le droit non plus d'enquêter parce que c'est sur comment se soigner, sinon il se prend une balle dans la tête aussi par le côté obscur qui sait à peu près, qui arrive à découvrir ce qu'ils font. Voilà. C'est très bien écrit, c'est très bien mené, c'est super intelligent. C'est une mini-série en 6 épisodes, donc il se passe beaucoup de choses. Il y a une sorte de ce mélange très anglais de séries un peu sombres, un peu terribles, avec de temps en temps des moments un peu what the fuck rigolos. Des personnages un peu complètement barrés au milieu, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Y a un côté très intelligent parce que pendant le premier épisode, on ne voit quasiment pas le côté obscur. On n'a que le point de vue du docteur Jackman qui se réveille en se disant « Putain, qu'est-ce que j'ai fait? » Genre, je me réveille dans la chambre d'une prostituée qui a l'air traumatisée. et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.
Il y a une suite aussi d'épisodes ou ça
Non,
s'arrête
non,
là?
ça s'est arrêté là. Il a arrêté la série, il est arrivé au bout. C'est très très bien mené, c'est très bien conclu. Il y a beaucoup de mystères parce que il y a une équipe d'enquêtrices au milieu qui surveille le docteur. Il y a tout un complot sur des personnes qui veulent récupérer apparemment le pouvoir du docteur Jekyll et Mr. Hyde. En gros, il y a un lien avec le docteur Jekyll et Mr. Hyde entre le personnage.
Mais on voit la transformation
La
ou...
transformation, c'est l'acteur qui juste change de tête. Alors, il a un peu légèrement changé la coupe de cheveux. Et juste que l'acteur est bluffant. C'est-à-dire que d'un coup, il a l'air d'être le gars sûr de lui. Il peut s'énerver aussi, hein. Je veux dire, c'est un mec normal, quoi. Que quand il va pas bien, quand sa famille est en danger, etc., il peut être très très énervé, mais toujours mesuré. Le gars qui a l'air normal, quoi. Et la Jekyll qui, d'un coup, a un grand sourire fou, les cheveux un peu plus en arrière, plus noir aussi, il fonce ses cheveux à ce niveau-là. Le mec, il a le regard qui fait peur. Ils sont amusés à le faire filmer d'un peu plus bas parce qu'il est censé être un peu plus grand, plus musclé, plus rapide, et complètement imprévisible et malade. Et franchement, la performance de l'acteur est bluffante. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette série aussi, c'est que à chaque épisode, il se passe quelque chose d'important qui fait avancer l'intrigue. Et sur 6 épisodes, on a vraiment toute une histoire qui remonte de l'époque de Stevenson et du docteur Jekyll et Mr. Hyde à Édimbourg, jusqu'à l'époque contemporaine et comment c'est arrivé, etc. Très très bonne série, très contemporaine. Franchement, je ne saurais que la recommander. Elle est sortie en DVD. On peut la trouver à pas très très cher sur n'importe quel site internet qui vend des DVD, bien sûr.
Ça donne envie.
Voilà, parce que chez, enfin, qui vend des DVD de séries. Par exemple, si vous allez chez Dorcel.com, vous ne trouverez pas la série Jekyll.
Attends, je cherche le jeu de mots qu'ils auraient pu faire dans le titre.
Jerkill. Oh mon dieu.
Ouais, non, là on va être interdit. Mais à mon avis, il doit certainement y avoir une parodie qui doit exister.
Ouais. Eh bien, nous en avons fini avec notre épisode numéro 54. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission où on vous parlera encore de plein de choses, parce qu'on va essayer d'écouler notre pile, hein, rapidement. On va encore parler de Stevenson, vu qu'on a du L'île au trésor
yep.
dont on va parler. On a un 50 francs pour toutes, David Mourier, qui est en stock.
On a un Pierre Goldman.
Ouais, que tu essayes de finir, pas que c'est pas bien, mais c'est dur à lire.
Non,
c'est long,
non,
c'est long.
Non, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est long à lire.
Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très, très bonnes choses sont au programme des prochaines émissions. On a essayé de vous réserver quelques trucs. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur Facebook, sur le site, un petit peu partout. Nous, on adore. Et je vous promets que pour la prochaine émission, je vais me faire un courrier des lecteurs en bonne et due forme pour dire le bien et le mal que vous pouvez donner sur notre émission, parce que bah, sans les gens qui nous écoutent, je vois pas pourquoi on ferait ça en fait. Parce que même nos femmes nous écoutent pas.
Mais est-ce qu'on le ferait si on nous écoutait pas?
Ouais, mais entre nous, quoi, on n'enregistrerait pas, c'est tout.
Non, 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 ça se trouve, on serait assez maso pour le faire quand même en s'enregistrant et tu te ferais chier à faire le montage et tout pour le mettre en ligne pour des gens qui n'écoutent pas.
Donc merci à tous les gens qui
merci.
Nous écoutent et à ceux qui ne nous écoutent pas aussi, car on le fait quand même pour eux aussi.
Pour eux aussi, exactement.
Ciao, à bientôt. Ciao.